Les bonnes ondes de Claude B.
Voyage à travers les médias en Europe.
Une émission présentée par la première AGGSP de Claude B en direct sur Calade.
Calade, ma radio.
Bonjour à tous, bienvenue sur les bonnes ondes de Claude B, voyage à travers les médias en Europe. Les élèves de première AGGSP sont fiers de vous présenter aujourd'hui le fruit de leur investigation profonde.
Aujourd'hui au programme, les médias en Europe, le journalisme et la liberté d'expression. Plongez au cœur de nos micro-trottoirs, nos interviews, revues de presse et chroniques pour mieux comprendre ces vastes sujets. Et cette émission commence avec une première partie sur les médias en Europe.
Les bonnes ondes de Claude B.
Voyage à travers les médias en Europe.
Bienvenue dans notre rubrique des médias en Europe et plus spécialement la presse en Europe. Une revue de presse écrite et présentée par Talia, Camille, Charlotte, Maëlle et Jade. En nous basant sur la loi de la presse datant du 29 juillet 1881, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française qui garantit la liberté d'expression et d'opinion, nous sommes allés interroger des élèves de seconde, première et terminale du lycée sur leurs avis concernant la liberté de la presse en Europe. Écoutons-les.
Que pensez-vous de la liberté de la presse en Europe ?
Moi, je trouve... On a une bonne liberté d'expression dans la presse, avec pas de censure, et donc c'est bien.
Je trouve qu'on est quand même assez libre. C'est important qu'on soit assez libre dessus. Et...
Je trouve qu'elle est bien, qu'on est libre et qu'il n'y a pas beaucoup de censure, donc c'est bien.
Ok, alors selon vous, est-ce que la France a une bonne expression de la presse ?
Non. Je pense qu'elle n'est pas forcément utilisée à bon escient. Et qu'elle pourrait être mieux exploitée par certaines personnes qui ont du potentiel dans leur expression, mais qui ne l'utilisent pas forcément à bon escient, je pense.
Personnellement, je pense que la France s'est améliorée avec le temps, mais une partie de la censure est... La censure elle-même est censurée dans le sens où elle ne va pas dans les détails sur certains sujets, etc. Elle reste vague pour se glorifier la plupart du temps.
Elle va un peu trop dans les détails, justement, dans certains sujets.
Ouais, quand ça les arrange. En fait, tout le temps, quand ça les arrange. Mais après, c'est normal, on va dire.
Dans certains cas, ils se cachent un peu des problèmes vraiment vitaux du pays pour en mettre en valeur d'autres qui ne sont pas forcément si importants que ça, au final.
Selon vous, est-ce que la France a-t-elle une bonne expression de la presse ?
Non, en gros, tous les médias, ils disent un peu la même chose. Et c'est tout très de droite, tout, qui soutiennent le président... À part des trucs dénonciateurs comme le canard enchaîné ou les trucs comme ça. Mais sinon, ouais, c'est toujours la même chose, quoi.
Je pense que oui. Parce que, tout simplement, on a des médias de tout parti politique qui sont plus de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ou même de centre, ce qui relève une opinion pour tout le monde et assez libre malgré tout.
Pensez-vous que la Russie a une bonne liberté d'expression ?
Pour moi, non, parce que déjà, la Russie est en dictature. Personne n'a le droit de vraiment dire son avis. Et il vaut mieux pour eux de se cacher de leurs opinions.
Alors, je fais un exposé là-dessus d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de liberté d'expression parce que c'est tout censuré par le Vladimir Poutine.
Moi, je pense la même chose. Ils ne laissent pas les gens dire vraiment ce qu'ils pensent et ils censurent les médias et tout le monde.
Pensez-vous que la Russie a une bonne liberté d'expression ?
Non. Parce que ça fait le cinquième mandat de Poutine et à chaque fois qu'il y a un opposant, bizarrement, il meurt.
Non, surtout, il a été élu à 88%, ce qui n'est pas très démocrate.
Quel pays d'Europe a la meilleure liberté de la presse ?
Je dirais la France.
Selon moi, je sais pas trop. J'hésite avec la Suisse. J'irais la Suisse.
Pays nordique, genre la Suède, je sais pas.
On peut ainsi remarquer que les avis sont très partagés. Décortiquons tout cela. Nous savons que la France se place à la 19e place du classement européen de la liberté de la presse en 2022 selon Reporters sans frontières et 24e au classement mondial.
Tandis que la première place de ce classement est effectivement occupée par un pays nordique, la Norvège. En effet, ce pays possède notamment un contexte politique favorable à une liberté d'expression. la Norvège étant une monarchie constitutionnelle à tendance parlementaire et démocratique, les fake news étant dénigrées par les représentants politiques et leur constitution garantissant aux Norvégiens un droit à l'information publique. La liberté de la presse dans ce pays bénéficie d'un cadre juridique solide, puisque les sociétés d'édition sont garantes d'une importante indépendance éditoriale. Aussi, une version en ligne du journal le plus lu de Norvège, le Verdensgang, est accessible à tous. De plus, pour favoriser le dynamisme radiophonique, le gouvernement a mis en place une politique de zéro TVA pour un maintien de la qualité et du pluralisme journalistique. Ensuite, l'État encourage le journalisme indépendant et les débats d'idées. Et les médias ont un code éthique commun. Pour finir, la Norvège propose un environnement de travail sûr, car les violences physiques et les menaces sont rares.
En revanche, dans un classement de 180 pays, la Russie se place 164e. Le site Reporters sans frontières se base sur des indicateurs politiques, économiques, législatifs, sociaux et sécuritaires pour construire son classement mondial. Cela est notamment dû aux autorités réduisant au silence les journalistes opposants du régime. C'est par exemple le cas d'Anna Politkovskaya, une journaliste opposante du régime en place en Russie et opposante du président Vladimir Poutine. Elle a été retrouvée assassinée dans la cage d'escalier de son immeuble en 2006, en plein centre de Moscou. Elle avait dénoncé à plusieurs reprises les violations des droits de l'homme par les forces fédérales en Tchétchénie, ainsi que la milice de Ramzan Kadyrov. Elle dénonçait également la dégradation des libertés publiques et la corruption dans l'ensemble de la Russie. De plus, le gouvernement met en place des systèmes dans le but de réduire les mouvements de protestation qui visent à empêcher les journalistes de produire leurs articles. En outre, depuis l'invasion en Ukraine de février 2022, ce pays a intensifié les restrictions journalistiques.
Au terme de notre investigation sincère et profonde, menée par nos soins pendant plusieurs mois, la situation de la liberté de la presse en Europe est variée. Ainsi, 7 pays sur 10 dans le monde ont une mauvaise condition de la liberté de la presse, alors que 9 des 10 pays ayant une meilleure garantie de l'expression médiatique sont en Europe. Intéressons-nous maintenant à la montée de l'extrême droite en Europe à travers le parcours d'un migrant, avec au micro Pauline, Clémentine, Héloïse et Tesnim.
Bonjour, nous souhaiterions vous raconter une histoire fictive d'un migrant inspiré de parcours réels. Ali Yarzan naît dans un pays marqué par les guerres et l'instabilité politique, le Tchad. À l'âge de 23 ans, il décida de quitter son pays dans l'espoir d'une vie meilleure. C'est ainsi qu'il entreprit une traversée au Sahara avec son ami Hossin. Ils finirent par arriver en Libye où ils durent payer des trafiquants afin de passer la frontière sans trop d'accrocs. Malheureusement, son périple n'en était qu'à son commencement et la route était longue jusqu'en Angleterre. Après être monté à 11 sur une petite embarcation gonflable qui s'effritait à vue d'œil, Ali a subi un trajet épouvantable dû au manque d'hygiène et au confort désastreux. En effet, lors de ce trajet, 4 personnes ont tristement perdu la vie, dont un ami proche d'Ali.
Une semaine plus tard, après avoir traversé la mer, ils atteignent Lampedusa, une île italienne. Ils débarquent sur une petite plage et décident de trouver un endroit où dormir. Tâche difficile étant donné que les habitants ne semblent pas vouloir les aider. Suite à des heures de recherche, ils trouvent enfin un petit hotspot, camp improvisé aux conditions de vie déplorables, la Croce Rossa Italiana, la Croix-Rouge italienne. Cependant, la surpopulation de ce dernier ne leur permettra pas de trouver du confort afin de se rétablir de leur traversée. Après une courte nuit mouvementée, ils décident, lui et quelques-uns de ses camarades, de partir en direction du port afin de prendre un ferry pour atteindre le port de Gênes. Le voyage se fera de nuit et durera 8 heures. N'ayant pas les moyens de payer, ils devront se faufiler et rester avec les voitures durant tout le trajet, en essayant de ne pas se faire attraper. Arrivés à destination, sains et saufs, ils prennent un train pour Milan, à la gare de Gênes Piazza Principe. Une fois de plus, ils montent illégalement pour rejoindre la troisième destination. Les jours qui suivirent n'ont pas été de tout repos. Ali et ses camarades n'ont pu ni manger ni dormir. Ils finirent tout de même par trouver refuge sous un pont. Vers 6h du matin, ils n'ont d'autre choix que de voler une voiture pour passer la frontière autrichienne qu'ils attendront 2 heures plus tard. Une fois là-bas, ils traverseront environ 700 km afin de rejoindre l'Allemagne.
Une fois arrivés en Allemagne, le chemin n'est plus si long. Ali ne perd pas espoir. Mais les péripéties ne sont pas terminées. Il faut faire vite. L'Allemagne n'est plus un lieu sûr pour les immigrés clandestins. D'une part, avec le gouvernement qui a accepté le projet de loi visant à accélérer l'expulsion de ces derniers. Mais aussi et surtout avec la population, puisque l'extrême droite et le néonazisme commencent à reprendre de l'ampleur. Après avoir rejoint un petit groupe de migrants, tous animés par le même désir, désespérés de rejoindre l'Angleterre, ils ont planifié leur passage minutieusement, cherchant à éviter les patrouilles frontalières et les contrôles de sécurité. Puis, ont marché pendant des heures, à travers des terrains accidentés, se cachant lorsqu'ils entendaient des bruits suspects. Enfin, après une nuit de marche épuisante, ils sont parvenus à atteindre la frontière. Mais c'est à ce moment-là qu'un groupe de jeunes hommes, au crâne rasé, les intercepte et les rue de côte de façon extrêmement violente, puis partent, les abandonnant au sol. Certainement l'un des nombreux groupuscules allemands. Mais Ali et un autre de ses camarades parviennent tout de même à reprendre leur route et finissent par passer de l'autre côté de la frontière. La sensation de soulagement était palpable, mais elle était tempérée par la conscience aiguë des défis qui les attendaient en France.
Ces deux jeunes hommes, fatigués de leur voyage, arrivent à Strasbourg. Sans argent européen, ils décident de prendre le train clandestinement pour Paris. Par chance, aucun contrôle n'a été effectué. Ils rejoignent Paris, porte de la Chapelle, par le métro de la gare Paris-Est, toujours de manière illégale. Là-bas, ils trouvent refuge dans un centre d'accueil qui leur offre un hébergement temporaire, un lit dans un dortoir, une douche et un repas chaud. N'étant pas considérés comme demandeurs d'asile, ils peuvent séjourner dans le centre selon les disponibilités. Grâce au réseau de la solidarité citoyenne, ils obtiennent un soutien pratique, notamment des traducteurs pour les aider à se rendre à Calais, dans le nord de la France, où ils souhaitent prendre le ferry pour Douvres. À Calais, ils sont confrontés à un groupuscule d'extrême droite comprenant des jeunes hommes radicaux dont leur mode de fonctionnement est la violence. Ali et son ami y assistent. Des coups de poing, des bastons, des agressions dans les camps des réfugiés. La peur, l'inquiétude et l'horreur sont à leur comble. De plus, les conditions d'hygiène dans les camps sont déplorables et le manque d'eau potable favorise la propagation d'épidémies. Les deux jeunes migrants se retrouvent face à une profonde désolation et une problématique. Traverser la Manche. Ils tentent de se cacher dans les camions ou les voitures à bord des ferries qui relient Calais à des ports britanniques comme Douvres. Cette route présente de nombreux dangers, notamment le risque d'accident, d'asphyxie, de noyade et d'interception par les autorités françaises ou britanniques.
Ça fait maintenant 5 ans qu'Ali vit en Angleterre. Il a trouvé du travail dans un restaurant, s'est marié et a eu une petite fille de 2 mois. Le fait qu'ils ne connaissent ni la lecture ni la langue du pays ont rendu les premiers mois difficiles. Mais différentes organisations locales lui ont permis de s'adapter à la vie britannique. Ce qui l'a le plus aidé reste le soutien psychologique dont il a pu disposer, puisque ce qu'il a vécu laisse certaines séquelles. C'était le périple d'Ali, présenté par Pauline, Clémentine, Héloïse et Tesnim. Tout de suite, une pause musicale avec Skyfall, interprétée par Adèle, avant de retrouver nos camarades.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. Let the sky fall when it crumbles.
Bonnes ondes de Claude B.
Voyage à travers les médias en Europe.
Bonjour, nous sommes Bélinaï, Emel et Yousra. Dans le cadre de ce projet, nous recevons donc François Boursier, historien, professeur émérite à l'université à l'UCLI, catholique de Lyon. Nous nous sommes intéressés au journalisme en temps de guerre. Bonjour Monsieur Boursier.
Bonjour.
Tout d'abord, pouvez-vous nous préciser dans quel cadre sont accueillis les journalistes ? Et arrivés sur le terrain, sont-ils libres d'aller où ils veulent ? Prenons comme exemple, dans la bande de Gaza, pendant plusieurs mois, les journalistes avaient pour directive de rester dans leur hôtel en raison de la guerre intensive.
Les journalistes ne font pas ce qu'ils veulent, soit parce qu'ils ont été ce qu'on appelle des journalistes embarqués. Les armées israéliennes ou russes ou ukrainiennes proposent à des journalistes de venir avec eux pour filmer, interviewer, observer, prendre des notes. Mais en même temps, ceux qui les embarquent leur disent « là, vous pouvez y aller ». Là, vous n'irez pas. Et puis, il y a une deuxième manière de travailler, c'est quand on est reporter de guerre, correspondant pour un journal, une télévision sur les terrains d'affrontements militaires. Là, en général, on a des contacts, on a un savoir-faire, on a des réseaux. Et grâce à ces contacts et ces réseaux, en général, on va trouver ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire une personne qui connaît bien le terrain, qui connaît la langue du pays, qui connaît votre langue, et qui va vous dire « je vous emmène en voiture, et je vais vous emmener partout où vous voudrez aller », avec tous les risques que cela comporte, à savoir qu'à tout moment, on peut être confronté à une situation extrêmement grave.
D'accord, merci. J'aimerais savoir où sont hébergés les journalistes.
Alors les journalistes, ça dépend les situations. Hein. Si vous avez vu les premiers reportages des journalistes au tout début de la guerre, l'intervention israélienne à Gaza, on voyait des journalistes qui étaient sur les hauteurs des hôtels et qui commentaient la guerre. Et on voyait en arrière-plan des bombes qui tombaient et qui détruisaient des bâtiments. Et ça a duré le temps que la sécurité l'a permis. Et au fur et à mesure que ça devenait extrêmement dangereux, les journalistes ont pris des risques ou n'ont plus pris de risques. Donc soit ils sont partis. C'était le cas de la plupart des journalistes. Ceux qui acceptaient de prendre des risques sont restés le plus longtemps. Et là, c'est le système débrouille. On connaît des gens, on nous accompagne, on nous emmène dans des endroits dangereux. Puis à un moment donné, on vous fait savoir que l'insécurité est telle que c'est plus possible. Aujourd'hui, avril 2024, il n'y a plus de journalistes à Gaza. Alors il n'y a plus de journalistes à Gaza. Il n'empêche que le journal Libération... du 10 avril, c'est pas très vieux, en lien avec l'ONU et des photoreporters palestiniens, a réussi à publier un reportage de photographes palestiniens qui ont fait le travail, parce qu'ils sont sur place, ils ont pris les risques. Hein. Il y a une centaine de journalistes palestiniens qui sont morts depuis le début de la guerre, mais qui ont réussi à produire une information qui a été publiée par le journal Libération.
D'accord, merci. À quels défis sont confrontés les journalistes ?
Les défis pour les journalistes, c'est, il est double. C'est les sources. Parce que le métier de journaliste, hein, qu'on soit journaliste à Radio-Canada ou reporter de guerre pour LCI sur le front ukrainien, le métier de journaliste consiste à établir les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce que j'ai vu ? Et donc, pour établir les faits, les risques et les défis auxquels sont confrontés les journalistes, c'est le problème des sources. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu ? Où est-ce qu'on m'a emmené et que je n'ai pas vu ? Les contacts et les relais. Est-ce que je peux compter sur eux ? Et dans les contextes de guerre, comme on les vit actuellement, soit en Ukraine, soit à Gaza, mais... On pourrait parler de ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie. 600 000 morts en Éthiopie aujourd'hui. Qui en parle ? Il y a eu près de 600 000 morts au Yémen. on n'en parle plus aujourd'hui. Donc voilà, il y a partout il y a la guerre, mais en tout cas, le défi, c'est de s'assurer de ses sources. Et derrière l'enjeu de s'assurer de ses sources, il y a le risque permanent d'être manipulé. Et le risque permanent d'être manipulé est lié au fait que dès que vous êtes en reportage de guerre et que vous devez faire de l'information sur une guerre, vous êtes confronté à des moments que vous allez vivre qui sont chargés d'émotions. Vous risquez d'être pris par l'émotion. Et pris par l'émotion, vous, symboliquement, vous perdez la raison. C'est-à-dire vous perdez l'approche rationnelle. Bon, sachant qu'être rationnel sous les bombes à Gaza, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais le risque, il est à ce niveau-là de s'assurer de la capacité que l'on va avoir à établir les faits. Comment ça s'est passé et ce que je peux en dire.
Merci. Dans quelle mesure les médias locaux peuvent-ils faciliter l'accueil et la collaboration avec les journalistes du pays?
Alors, ça dépend des situations. On le voit bien pendant tout un temps sur Gaza. C'est pareil sur le front ukrainien. Les journalistes bénéficient de relais. Ils sont accueillis. Quelquefois, ils sont même hébergés par les fixeurs dont je parlais il y a un instant. Et ils vont leur faciliter la situation. Et tant qu'on a sur place des professionnels de l'information, que ce soit des journalistes de presse écrite, de télévision, de radio ou autre, on sait que l'on peut d'abord repérer un journaliste dont on sait qu'il fait le bon travail et on va lui demander de nous envoyer un reportage sur une situation à tel endroit. Mais c'est possible jusqu'à un certain point. Puis quand on arrive, et c'est le cas de Gaza aujourd'hui, il n'y a plus possibilité d'avoir sur place des journalistes, qu'une centaine de journalistes palestiniennes et palestiniens sont aujourd'hui morts sous les bombes israéliennes, eh bien, on n'a plus le moyen d'informer. Et là, ça devient préoccupant.
Merci. Comment les journalistes évaluent-ils les risques et prennent-ils des décisions éclairées sur leur sécurité lorsqu'ils sont accueillis dans des régions en conflit?
J'ai presque envie de dire au doigt mouillé, hein, comme on dit. Hein. C'est-à-dire c'est une appréciation de la situation, aux bombes que l'on entend qui tombent à côté de vous, les sirènes qui vous avertissent qu'il va y avoir une attaque qui se précise, et vous prenez des risques. Et là, le journaliste de guerre qui n'intègre pas la nécessité d'émettre l'hypothèse qu'il pourrait mourir ne peut pas bien faire son travail. Ça peut être difficile de l'entendre, mais c'est ça, parce que quand on est dans une situation de guerre, les risques sont considérables. Ils peuvent venir de partout, à tout moment. Ça peut être une bombe, mais ça peut être aussi le tir d'un sniper. Et donc, on prend le risque. Et on prend le risque parce que le journaliste a toujours cette obsession qui est d'informer et de donner aux gens le déroulement des faits pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer.
Merci. Pouvez-vous nous donner un aperçu du quotidien d'un journaliste sur un terrain de guerre?
Alors, ça va dépendre des terrains de guerre. Là, je prendrai un exemple sur le front ukrainien et le front russe en même temps, avec une reporter de guerre qu'on voit très souvent à la télévision qui s'appelle Anne Niva, qui est correspondante notamment pour LCI sur le front de guerre. Bon, c'est quelqu'un qui parle russe, hein, qui a évolué dans ce pays et va régulièrement dans ce pays. Donc elle a une foultitude de contacts. Elle revient d'un long séjour à la frontière, enfin du côté ukrainien et du côté russe à Belgorod. Là, elle a suffisamment de contacts pour téléphoner, être accueillie. Et une fois accueilli sur place, trouver un chauffeur qui va accepter courageusement de l'emmener en voiture au plus près de la bataille. C'est ça le quotidien d'un journaliste de guerre. C'est en situation de risque, trouver les contacts qui vont permettre de faire son travail.
Bonjour.
Bonjour.
Selon le quotidien Les Échos, le Kyiv indépendant fondé par des anciens journalistes, le Start-up, devenu un média de référence sur la guerre en Ukraine en publiant les informations. Ainsi, comment traite-t-on le sujet de la guerre dans nos médias français?
Alors, on essaye. Alors, pour s'informer sur une guerre comme sur ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passe sur le front ukrainien avec la guerre d'agression russe, on a des premières sources. Ce sont ceux qui sont sur le terrain, qui vont voir, qui enquêtent, qui filment et qui font remonter l'information. C'est une première source. La deuxième source, selon le pays, c'est qu'on a des correspondants. Les journaux, les télévisions, les radios ont toujours en permanence, dans les grandes villes, des correspondants. Ils sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Certains, comme Vitkin à Moscou, il y a depuis une dizaine d'années. Ils ont des réseaux, ils ont une connaissance, ils observent, ils prennent des notes, ils enquêtent. Ils ont des portes d'entrée dans de nombreux lieux qui leur permettent de faire remonter de la connaissance. Donc ces correspondants et les reporters de guerre, doublés d'un troisième niveau d'information qui vont être les, on va dire, les spécialistes, qui sont des experts, en général des chercheurs, des universitaires, qui sont capables de nous mettre à distance, parce que les deux premiers que j'ai cités, eux, ils ont le nez dans le cambouis, là. Ils sont là, ils sont dans les faits, au milieu des morts, des bombes et de la bataille. Mais après, il y a un deuxième niveau d'analyse. Et là, on a des experts, des chercheurs, des spécialistes des questions liées à la guerre ou liées à l'histoire des différents pays ou des problématiques de frontières. Elles sont capables de nous apporter un éclairage. En sachant en même temps qu'il y a... Alors, tous les médias traitent de tous ces niveaux-là. Après, selon le média, la presse écrite, la radio et la télévision ne construisent pas pour nous un même rapport à la réalité. C'est vrai que la presse écrite, normalement, la presse écrite nous donne le temps de la mise à distance entre l'événement et nous. Alors que la radio et la télévision, dans leur première approche, vont nous mettre face à l'événement. Le journaliste de radio, il tend son micro et voilà. Là, vous avez fait... vous allez dans la rue, vous posez des questions aux gens et les gens vous répondent. Ça donne une information. Mais on est dans le registre de la relation, de l'émotion. Et il faut après un deuxième niveau de mise à distance pour comprendre. Et c'est ce que l'on doit attendre des médias. C'est qu'ils nous donnent à savoir ce qu'il y a, ce qui se passe, et en même temps nous donnent à comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut ce double niveau. Et le problème que l'on a aujourd'hui dans le monde de l'information, c'est qu'il y a la préoccupation de faire le buzz, comme on dit. Il faut faire du bruit. Et plus on fait du bruit, plus ça attire de monde, de téléspectateurs, d'auditeurs ou de lecteurs. Est-ce qu'on gagne en compréhension? Je ne suis pas sûr.
Merci. Pourquoi envoyer des journalistes dans des pays en guerre et dans quel but exactement?
Dans le but de nous aider à comprendre, savoir et comprendre ce qui se passe. Je crois que fondamentalement, le métier de journaliste, il est fondamental dans l'exercice de la démocratie. Parce que être citoyenne et citoyen, c'est d'abord savoir ce qui se passe. Ignacio Ramonet, qui est un ancien directeur du Monde diplomatique, qui est un mensuel d'information géopolitique, Ignacio Ramonet disait toujours « Faire bien faire son métier de citoyen, c'est lire le journal, c'est s'informer ». Et donc nous avons besoin, nous, en tant que citoyennes et citoyens, d'avoir des professionnels dont le métier va être d'aller partout, enquêter, et pour nous dire « Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe ». Et c'est valable aussi bien pour la disparition du petit Émile que ce qui se passe dans la bande de Gaza. On a besoin d'être informé, que l'on nous donne l'essentiel d'une information sourcée, c'est-à-dire que les journalistes ont pris le temps de vérifier les informations qu'ils nous donnent, parce que nous, on a besoin. L'exigence que nous devons avoir, de la part, en tant que citoyen, vis-à-vis de tous les professionnels de l'information, c'est que, justement, ils nous garantissent la véracité, l'exactitude, autant que faire se peut, des informations qu'ils vont nous transmettre.
Merci. Et donc, quel impact ont les journalistes sur la guerre? Y a-t-il des révélations, des changements?
Alors, ça peut arriver. Je vais prendre un exemple... assez ancien, vous n'étiez sans doute pas né, puisque c'était en 1989, au moment où le mur de Berlin s'est effondré et que dans tous les pays qui étaient sous occupation communiste, il y a un mouvement de libération qui se développe. En Roumanie, Ceausescu est à la tête de la Roumanie et il va être renversé par une opposition. Et à un moment donné, il y a des journalistes qui ont été manipulés par des opposants à Ceausescu, qui les ont emmenés dans un hôpital pour leur montrer des corps de femmes et d'enfants dont on nous a dit dans la presse, notamment le journal Libération, qu'ils avaient été torturés par la police politique de Ceausescu et que cela nous révélait la nature du régime. Or, ce qu'on va apprendre après, c'est que c'était une manipulation. Ça n'avait pas eu lieu. N'empêche que cet événement-là a provoqué une telle émotion en Roumanie et à l'échelle européenne que ça a fait basculer définitivement l'effondrement du régime dans le sens d'une libération, paradoxalement sur la base d'une manipulation. Bon, c'est très paradoxal, mais ça veut dire qu'à certains moments, effectivement, une information peut jouer un rôle. Quand il y a eu le bombardement de cet hôpital à Gaza, où il y a eu, dans un premier temps, les journaux, Libération, nous annoncent plusieurs centaines de morts dans un hôpital qui a été détruit par un bombardement israélien à Gaza. Eh bien, on va s'apercevoir au bout d'une dizaine de jours que ce bombardement n'avait pas eu lieu, même si, par ailleurs, il y avait effectivement des bombardements, mais que celui-ci n'avait pas eu lieu, que c'était une erreur d'un tir de roquette gazaoui qui avait raté et qui était tombé dans la cour de l'hôpital, et même pas sur l'hôpital, mais qui en même temps a provoqué dans l'opinion publique une émotion considérable et nous a révélé, là encore, c'est un mensonge, mais ça nous a révélé l'intensité de ce qui se passait à Gaza. Et si aujourd'hui, Gaza est un champ de ruines, parce que c'est de cela dont on parle, c'est un champ de ruines, c'est qu'effectivement, il s'est passé toute une série d'événements dramatiques, et notamment les bombardements de l'armée israélienne. Mais on a besoin de journalistes qui soient suffisamment à distance, qui ne se laissent pas envahir par l'émotion. Et ce n'est pas évident de ne pas se laisser envahir par l'émotion quand vous êtes confronté, quand on voit le reportage de Libération sur ce qui se passe à Gaza à travers un certain nombre de photographies. C'est sûr que ça prend aux tripes. Et l'émotion s'empare de vous et c'est plus possible de laisser place à la raison. Or, la bataille permanente qu'on doit mener, c'est de toujours en revenir à la raison, pas se laisser envahir par l'émotion.
Merci. Quelle liberté peuvent prendre les médias lorsqu'ils traitent les informations de guerre ?
Toutes les libertés qu'ils veulent, à condition de travailler à un établissement le plus exact possible des faits. Ils peuvent prendre toutes les libertés, prendre toutes les initiatives. Mais en même temps, c'est vrai que je fais souvent l'expérience, parce que je suis pas journaliste de profession, mais je suis un lecteur colossal d'actualité. Et très souvent, je fais l'expérience, je l'ai même enseigné pendant une vingtaine d'années à l'Université catholique, vous prenez un événement et vous voyez comment Le Figaro, Le Monde, Libération ont traité le même événement. Quel éditorial ils ont fait sur le même événement. Quelles photos ils ont mis en première page pour traiter du même événement. Et là, vous voyez émerger d'abord la liberté des journaux qui n'ont pas fait les mêmes choix, qui n'ont pas pris le problème sous le même angle, avec la même approche, en mettant en avant les mêmes phénomènes. Paradoxalement, il y a une subjectivité dans la manière d'informer. La liberté que prennent les médias, c'est qu'elle laisse place à une certaine subjectivité. Cette subjectivité, elle est naturelle. Si vous cherchez un journal objectif, vous pouvez chercher, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, ce qu'en tant que citoyen et citoyen, on est en droit d'exiger, c'est qu'un journal qui est subjectif, parce qu'il fait des choix, il a sa liberté de nous informer à sa manière, avec son approche, on doit lui demander de nous respecter et pour nous respecter, de nous donner le maximum d'informations pour que nous puissions nous faire une opinion nous-mêmes. C'est ça l'enjeu.
Ok, d'accord. À votre avis, quel est l'impact des reportages de guerre sur le public et la perception internationale du conflit ?
Alors, les reporters de guerre sont centraux dans la problématique de la guerre parce que le reporter, il est sur le terrain, il va nous faire remonter des images, des photos, des reportages, des enquêtes qui vont nous permettre très rapidement, notamment quand il s'agit de la radio et de la télévision, très rapidement vont nous permettre de prendre la mesure de l'intensité ou de la gravité d'un phénomène. Ça, c'est fondamental. On en a besoin. Ils sont le premier niveau d'information dont on a besoin. Après, d'autres, les journalistes qui sont plutôt dans leur bureau, vont reprendre toutes ces remontées d'informations et faire un travail de synthèse. Mais le correspondant de guerre, celui qui est sur le terrain, il est primordial dans la découverte de la réalité d'un problème.
Merci.
Bonjour, Monsieur Boursier. Pour commencer, comment sont formés les journalistes pour se protéger ? Ont-ils des écoles ou des enseignements particuliers ?
Alors, il n'y a pas de formation particulière pour entraîner ou préparer des journalistes à aller sur le front de guerre. Simplement, le journaliste qui accepte d'aller en Ukraine au plus près du front ou d'aller à Gaza quand c'était encore possible, avec le risque permanent de voir arriver un missile ou une bombe sur le coin de la figure, je dirais le seul entraînement possible à avoir, c'est d'être capable de courir un 100 mètres en 15 secondes, parce qu'autrement, c'est raté. Il n'y a pas de formation. Alors après, c'est les personnes. Hein. Vous avez des femmes et des hommes qui sont... Voilà, il y a un côté sportif. Hein. Vous l'avez vu comme moi à la télévision, quand ils sont, j'allais dire, avec leur équipement au plus près des tirs. Il faut être rapide, il faut être agile, il faut être capable de se replier, il faut se mettre à plat ventre, il faut se jeter au sol en l'espace de 3 secondes. Bon, ça s'apprend, c'est instinctif. Et puis, on y va si on se sent capable. Si on ne se sent pas capable, on n'y va pas. C'est une attitude personnelle. Et c'est vrai que pour être correspondant d'hier, il faut plutôt être sportif.
Donc, n'importe quel journaliste qui sort d'une école de journalisme peut aller sur un terrain de guerre.
Il faudra qu'il... Si vous êtes journaliste dans une rédaction et que vous l'êtes, vous dites « j'arrive, je veux être correspondant de guerre », on va vous dire « attendez ». On va d'abord savoir, commencer d'abord par savoir comment vous êtes journaliste et comment vous faites votre travail de journaliste. Puis après, c'est en fonction. Hein. C'est vrai que pour aller sur le front de guerre, il faut parler les langues étrangères le plus possible, parce que vous pouvez être confronté à des gens qui parlent le russe, l'ukrainien, qui parlent l'anglais. Donc il y a ça, il y a toute une formation. Il n'y a pas de spécialisation. Simplement, quand vous êtes dans une rédaction de radio, de télévision ou de presse écrite, au fur et à mesure de vos expériences, de votre professionnalisation, il y a des terrains sur lesquels vous vous sentez meilleur. D'ailleurs, la rédaction va repérer tout de suite que vous êtes meilleur sur tel domaine, dans telle manière de travailler, et on va vous y envoyer. Mais si vous débarquez en disant « je veux être reporter de guerre », on va vous dire « commencez par faire vos preuves sur le terrain de l'information ».
Merci. Étant donné qu'ils ont pour condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personne civile pour bénéficier d'une protection en cas de crime de guerre, selon l'article 79 du protocole 1 de la Convention de Genève, ainsi ont-ils des moyens de défense, tels que des armes, je ne sais pas.
Redites-moi votre question.
Ont-ils des moyens de défense ?
Redites toute la question.
Toute la question. Étant donné qu'ils ont pour condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personne civile pour bénéficier d'une protection en cas de crime de guerre, est-ce qu'ils peuvent se défendre si jamais ils se font attaquer ou quoi que ce soit ?
Oui, là, au niveau du monde des médias et de la démocratie et des états de droit, il y a toute une méthode de protection des journalistes qui va leur permettre, en cas de situation délicate, de, de pouvoir se défendre s'ils sont attaqués. Parce qu'encore faut-il qu'ils soient attaqués. Quand vous êtes journaliste, témoin d'un crime de guerre, hein, quand on l'a vu à Boutcha, quand les premiers journalistes sont arrivés et qu'ils ont filmé les corps de gens qui avaient été torturés et assassinés, ils sont témoins. Être témoin, c'est une chose. À partir de quel moment peut-on, entre guillemets, vous accuser d'avoir indirectement participé à, ça devient difficile et délicat. Mais en général, les journalistes, en démocratie, ont les protections qui leur permettent d'exercer leur métier.
Merci. Quelles sont les réactions des journalistes, des rapports, des comportements pour pouvoir rendre compte des atrocités de la guerre à leur rédaction? Quels choix vont-ils faire? Ont-ils le droit de tout filmer ou alors ont-ils des directives à suivre pour donner une certaine image de la guerre?
Ça va dépendre des rédactions. Mais les journalistes, ils filment. Ils filment, ils documentent ce qu'ils voient, ils écrivent, ils envoient des notes. Et après, au niveau de la rédaction, il y a un comité de rédaction. C'est-à-dire qu'avant de faire un journal de presse écrite, un journal télévisé ou un journal de radio, il y a une conférence de rédaction où là, le rédacteur en chef, avec son équipe de journalistes qui vont intervenir, font des choix. Donc ils ont des remontées qui leur viennent du terrain de guerre avec des films, avec des photos dont certaines sont insoutenables. Et là, vous avez un débat. On montre ou on ne montre pas. On fait voir ou on ne fait pas voir. On floute les visages ou on ne les floute pas. C'est toutes ces questions que se posent les journalistes et les rédactions en chef avant de faire passer une information, que ce soit en presse écrite d'ailleurs. À certains moments, en presse écrite, on se pose la question de montrer un visage, de montrer une personne en première page du journal, parce qu'on sait que cela peut avoir des conséquences. Donc il y a une réflexion, il y a un discernement de la part des journalistes quand ils exercent leur métier pour savoir comment et jusqu'à quel point ils vont transmettre par le journal, par la radio ou la télévision, les informations dont ils sont possesseurs. Et là se joue le respect du lecteur ou de l'auditeur ou du téléspectateur. Parce que c'est facile d'embarquer des gens dans l'émotion en les bombardant d'images insoutenables. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Les professionnels de l'information ont un souci éducatif qui est fondamental.
Merci. Selon Reporters sans frontières, depuis le 24 février 2022, 11 reporters ont perdu la vie en Ukraine, tandis que 105 journalistes ont perdu la vie dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Ainsi, la protection des journalistes varie-t-elle selon les pays? Pourquoi sont-ils plus exposés que d'autres? Et du coup, y a-t-il des pays où on est plus exposé que d'autres au risque?
Sont exposés au risque tous les journalistes qui vont sur les terrains de guerre et de confrontation ou quand ils vont dans des pays dictatoriaux. Aller faire un reportage en Corée du Nord aujourd'hui, alors vous ne risquez peut-être pas la mort instantanée, mais vous risquez de croupir jusqu'à la fin de vos jours en prison. Mais de manière générale, dès que vous êtes reporter de guerre, vous êtes en situation de risque. Et la situation de risque, elle se paye cash. Elle se paye cash par des blessures et par des morts.
Merci François Boursier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Et je trouve effectivement passionnant et intéressant le travail que vous faites sur l'information. Je parle souvent de ces questions-là avec des publics très variés. Je raconte toujours une anecdote, mais qui en même temps est symbolique. J'ai perdu son nom à l'instant, mais un grand chorégraphe d'origine suisse qui avait Patrick Dupont comme danseur étoile, quand il l'entraînait et qu'il entraînait Patrick Dupont dans un pas de danse pour qu'il exprime quelque chose et que Patrick Dupont n'arrivait pas à atteindre ce qu'attendait de lui le chorégraphe, ça le mettait en colère, le chorégraphe, et à un moment donné, il disait à Patrick Dupont: « Patrick, lis le journal, tu danseras mieux ». Ça voulait dire que quand on lit le journal, on éprouve le monde. on prend le monde tel qu'il est, et prenant le monde tel qu'il est, on peut le transmettre à travers le métier que l'on exerce. Et donc, quel que soit le métier que vous ferez demain, lisez le journal, vous le ferez mieux.
Merci. Je laisse place maintenant à nos camarades avec une chronique.
Les bonnes ondes de Claude B.
Calade.
Toujours sur Radio Calade avec les bonnes ondes de Claude B. Nous avons choisi avec Ajar et moi-même de nous intéresser plus particulièrement à la liberté de la presse en France. La liberté de la presse en France est un principe fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle garantit le droit pour les journalistes de rechercher, d'informer et de diffuser des informations sans censure ni ingérence du gouvernement. Ce principe est protégé par la loi et constitue un pilier essentiel de la démocratie française permettant le pluralisme des opinions et la transparence de l'information. Cependant, malgré cette protection légale, des défis persistent, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis des intérêts économiques et politiques, ainsi que des pressions sociales ou juridiques sur les médias.
Bonjour, alors, la liberté de la presse en France est respectée car elle est un pilier fondamental de la démocratie. Elle permet d'informer les citoyens, de garantir la transparence et de tenir les gouvernements responsables. C'est un droit fondamental qui favorise la liberté d'expression et le pluralisme des idées. Comme pour le média Mediapart, qui est un quotidien d'actualité numérique français créé en 2008 par François Bonnet. Il emploie près de 140 personnes, dont plus de 70 journalistes, et compte 220 000 abonnés, reconnus pour la qualité de son journalisme d'enquête d'investigation et ayant une ligne éditoriale orientée vers le parti de gauche. Le site est disponible en français, anglais et espagnol. C'est un média qui a été créé par des journalistes qui ont quitté de grands médias nationaux pour créer un journal indépendant car les journalistes se sentaient censurés par leur rédaction. Il y a aussi Blast, qui est un site d'information ainsi qu'une web TV lancé par le journaliste d'investigation Denis Robert, sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif et financée par le biais de financement participatif. Cependant, la liberté de la presse peut ne pas être respectée dans certaines situations, comme lorsque le gouvernement ou les autorités cherchent à contrôler ou à censurer les médias. Je vais vous donner un exemple récent de censure en France qui entoure la loi Avia, qui vise à lutter contre la haine en ligne en obligeant les plateformes à retirer rapidement les contenus signalés comme illicites. La loi a été adoptée en France en mai 2020. Certaines critiques ont soulevé des préoccupations concernant la liberté d'expression et le risque de censure excessive. Elle est cependant du ressort des tribunaux d'interdire la publication de certains articles, comme dans les pays où il y a des régimes autoritaires, comme par exemple en Russie, où l'une des principales raisons est que le pouvoir est entre les mains du président. Les restrictions sur la liberté d'expression et la répression des voix dissidentes, ainsi que le contrôle étroit sur les médias et les institutions. Il peut également y avoir des pressions économiques ou politiques qui influencent la façon dont les médias qui rapportent les informations. Dans ce cas, la liberté de la presse est violée et cela compromet la démocratie et l'accès à une information objective et indépendante. Dans l'ensemble, la France continue de faire face à des défis pour assurer le plein de la liberté de la presse. Il y a aussi les fausses informations qui peuvent compromettre la confiance du public dans les médias. Cependant, la France est engagée à maintenir cette liberté fondamentale.
De plus, un lanceur d'alerte est une personne qui divulgue des informations confidentielles ou sensibles sur des activités illégales, frauduleuses ou dangereuses au public ou aux autorités compétentes. Ils le font souvent dans l'intérêt général pour mettre en lumière des pratiques répréhensibles ou des risques pour la société. Un exemple connu de lanceur d'alerte est Edward Snowden, qui a révélé des programmes de surveillance de masse menés par la NASA. Les risques pour les lanceurs d'alerte peuvent inclure des poursuites judiciaires, la perte d'emploi, la stigmatisation sociale, voire des menaces pour leur sécurité personnelle. En conclusion, la France a une longue tradition de protection de la liberté de la presse, garantie par des lois et des institutions telles que la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Cependant, des défis persistent, notamment en ce qui concerne la concentration des médias, les pressions économiques et politiques. Bien que des garanties constitutionnelles soient en place, il reste des préoccupations concernant la surveillance gouvernementale, les attaques contre les journalistes et les tentatives d'influencer le contenu médiatique. Maintenant, je vais laisser la place à la chronique sur les fake news de Gabin et Pauline.
Les bonnes ondes de Claude B.
Vous écoutez bien Radio Calade et notre chronique sur les fake news. Les fake news, donc les infox en français, ça désigne par la définition du dictionnaire les informations qui sont volontairement biaisées, avec des titres accrocheurs par exemple, et qui sont répandues pour favoriser un certain parti politique, un produit, un médicament, ou même pour ternir la réputation d'une personne, d'une entreprise ou d'un État. De nos jours, les infox sont très présentes dans les médias, et cela est causé notamment par la diffusion de plus en plus rapide sur les réseaux sociaux, ou encore avec la facilité de modifier une vidéo ou une photo avec les intelligences artificielles.
De plus, les personnes ont tendance à avoir de plus en plus confiance dans les médias. Par exemple, selon France Info, à Tours en 2022, lors d'un sondage réalisé sur 1000 personnes, 78% d'entre elles disaient faire confiance aux infos dans les médias, ce qui représente 9 points de plus que 2 ans auparavant en 2020, où seulement 69% des gens. Les motivations de diffusion des fake news peuvent être multiples. Elles peuvent avoir un but comique, seulement ce n'est pas toujours le cas. Ces fausses informations peuvent être utilisées afin de renforcer des idéologies, en les rendant crédibles, principalement dans des régimes autoritaires ou totalitaires, afin de contrôler une population. C'est le cas de la Russie, un État autoritaire qui contrôle une grande majorité des médias et du contenu sur Internet grâce à la censure. Selon le journal Le Monde du 24 février 2023, ce phénomène s'est accentué depuis quelques années avec le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En effet, les chaînes de télé dites patriotiques russes cherchent à attiser la haine envers l'Ukraine en utilisant des termes tels que « ukro-nazi ». Ici, le but est de faire passer la Russie pour la victime et le pays agressé. Comme nous l'avons vu, l'un des moyens de propagande les plus efficaces sont les chaînes télévisées, mais il existe bien d'autres moyens de diffuser des informations biaisées, voire fausses. Ces fake news peuvent aussi avoir un but financier. En effet, le magazine Phosphore du 1er mai 2022 cite certains exemples comme l'étude sur les bienfaits de l'alcool dans les années 90 en France. Les Français à cette époque souffraient moins de maladies du cœur que les Anglais, alors que leur alimentation était plus grasse et qu'ils fumaient plus. C'est ainsi que le French paradoxe est né et a ainsi poussé les Français à augmenter leur consommation d'alcool et principalement de vin. En matière de santé, lors de la crise du Covid-19 du printemps 2020, le professeur Didier Raoul affirme que la chloroquine est la solution pour guérir du virus. Cette idée est reprise par Violaine Guérin et Martin Wooner et publiée à l'international dans une revue asiatique en juillet 2020. Cette étude fait la promotion de ce médicament alors que les autorités de santé l'ont fortement déconseillé. En effet, selon une étude publiée par le Figaro le 29 novembre 2021 par Rita Devis, la chloroquine a de nombreux effets secondaires dangereux.
Avec la propagation de nombreuses fake news, nous pourrions penser qu'il est très compliqué de s'informer correctement de nos jours. Pourtant, de nombreux moyens sont mis en œuvre pour essayer de lutter contre les fausses informations. Déjà, selon le site internet du gouvernement, l'État français essaye au maximum de contrôler et de réduire les fake news de nos jours avec par exemple la loi Infox, datant de novembre 2018 et qui vise à lutter contre la diffusion intentionnelle d'Infox, ou encore avec la sensibilisation qui est réalisée à travers les affiches gouvernementales. Mais il n'y a pas que la France qui essaye de lutter contre ces fausses informations. Au sein de l'Union européenne, des lois sont mises en place pour lutter contre les nouvelles technologies et leurs dérives possibles, comme la création du règlement européen sur l'intelligence artificielle le 21 avril 2021, qui essaye de poser quelques obligations de transparence à propos de l'utilisation de ces technologies par des États. À plus petite échelle, certaines personnalités comme le comédien et humoriste Kevin Razi font de leur mieux pour essayer de sensibiliser la population aux fake news, avec par exemple le livre « Fake news, évite de tomber dans le piège », où on apprend à démêler le vrai du faux au niveau des informations, à travers des quiz, des tests, ou encore de l'apprentissage des questions essentielles à se poser avant de relayer une information, comme qui l'a publié, qui l'a écrite, y a-t-il des enjeux, notamment économiques ou politiques, d'où vient cette information et a-t-on des intérêts personnels qui nous pousseraient à y croire ? Notre analyse sur les fake news est terminée, nous espérons qu'elle vous aura éclairé sur le sujet. Dans quelques instants, nous écouterons le sondage réalisé par Ismaël et Ange sur la relation que les Français entretiennent avec les médias. Mais tout de suite, écoutons Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. And let me see what spring is like on
a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Bonnes ondes de Claude B.
À quelle fréquence les Français s'informent-ils ? Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous faites partie des 51% des Français déclarant s'intéresser à l'information. Nous avons mené une petite enquête auprès de 200 personnes. Parmi elles, 73% affirment s'informer de l'actualité tous les jours, une tendance légèrement en hausse ces derniers temps. L'accès aux différents médias directement depuis son smartphone facilite la tâche aux plus fainéants d'entre nous, désirant s'informer rapidement sans avoir à s'enfiler des kilomètres de pages. Le développement des médias en ligne rajoute certes une facilité à s'informer rapidement et efficacement, mais rajoute une question de fiabilité sur ces informations. On sera moins amené à vérifier les sources de ces vidéos courtes, popularisées par le format vertical utilisé par plusieurs médias, tels que Hugo Décrypte, qui en réalité reprend juste des articles de l'actualité, mais les fait parvenir à un format court et en vidéo afin de trouver un large public, surtout les jeunes de 18 à 24 ans. Il est quotidiennement suivi par un lycéen sur trois, d'après notre enquête. Également Brut et Combini jouent sur ce format court et efficace pour nous informer de l'actualité. En matière de médias, les Français conservent un certain attachement à la télévision, qui demeure un canal d'information très consulté, malgré l'émergence d'Internet comme principal moyen de se tenir au courant de l'actualité en 2021. Cette évolution marque un tournant significatif, marquant la transition vers une consommation plus numérique de l'information. Le journal papier, quant à lui, poursuit son lent déclin, avec de plus en plus de Français se tournant vers leur téléphone pour accéder aux nouvelles. Cependant, il existe encore des nuances dans les habitudes de consommation selon les moments de la journée. Le téléphone est consulté par environ 25% des Français le matin, un chiffre comparable à celui de la radio, qui est à 23%, tandis que la télévision reste légèrement en tête à 27%. Cette répartition montre que les Français adoptent des approches multimédiatiques pour s'informer, adaptant leurs choix en fonction du moment et du contexte de leur journée. En France, les habitudes de consommation d'informations varient considérablement selon les différents groupes d'âge. Les personnes âgées de 50 ans et plus ont tendance à privilégier la télévision comme principale source d'information, fidèles aux journaux télévisés et aux émissions d'actualité diffusées à l'écran. De plus, la radio demeure un média apprécié par cette tranche d'âge pour son accessibilité et son format audio, offrant un moyen confortable de rester informé. En revanche, les adultes de moins de 35 ans sont résolument connectés à Internet, utilisant de manière intensive des sites d'actualité en ligne, des réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques pour s'informer au quotidien. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans leur consommation d'actualité, en particulier pour les 18-24 ans, qui sont les plus gros consommateurs d'informations via ces canaux interactifs et instantanés. Quant aux adultes d'âge moyen, soit la tranche d'âge de 35 ans à 50 ans, ils combinent souvent l'utilisation d'Internet avec la télévision et la radio pour rester informés. Ils privilégient les sites d'actualité en ligne et les applications mobiles, tout en accordant une place importante aux sites d'actualité, une place importante aux émissions télévisées d'information et aux programmes radiophoniques dans leur routine quotidienne.
En ce qui concerne la lecture des journaux, bien que cette pratique soit davantage associée aux personnes plus âgées, de plus en plus de jeunes adultes se tournent vers les versions numériques des journaux pour accéder rapidement aux nouvelles. En France, les médias les plus consultés par les Français demeurent les chaînes de télévision traditionnelles, telles que TF1, France 2, France 3 et BFM TV, qui diffusent des journaux télévisés et des émissions d'actualité très suivies. Cependant, une évolution significative s'est produite ces dernières années, marquée par le fait qu'Internet est devenu le moyen le plus utilisé pour se tenir au courant de l'actualité en 2021, dépassant ainsi la télévision pour la toute première fois. Les Français se tournent de plus en plus vers des sites d'actualité en ligne, tels que Le Monde, Le Figaro, BFMTV.com et des applications mobiles associées à ces médias pour accéder à des informations instantanées et personnalisées. Cette transition vers des médias numériques reflète les tendances mondiales et souligne l'importance croissante de la connectivité et de l'accessibilité dans la consommation d'informations au quotidien. Il est intéressant de constater que malgré un intérêt accru pour l'actualité chez les Français, un nombre significatif éprouve de la fatigue ou du rejet vis-à-vis des informations. Sur les 36% des Français affirmant être fatigués de l'actualité, 48% estiment que tous les médias abordent toujours les mêmes sujets. 38% affirment que l'angoisse ou le sentiment d'impuissance sont suscités par certaines informations d'actualité, ou encore le manque de confiance dans ce que disent les médias à 27%. Un sentiment d'impuissance face à l'actualité, où les individus se sentent bloqués, incapables d'agir face à un flux incessant d'événements. Cela souligne l'importance pour les médias de diversifier leur approche et de reconstruire la confiance du public en offrant une information équilibrée, pertinente et constructive. En conclusion, les habitudes d'information des Français révèlent une transition significative vers une consommation plus numérique de l'information, marquée par l'émergence d'Internet comme principal moyen d'accès à l'actualité. Bien que la télévision conserve un certain attrait, surtout parmi les personnes plus âgées, les jeunes générations se tournent massivement vers les médias en ligne et les réseaux sociaux pour s'informer. Cette évolution vers le numérique n'est pas sans poser des défis, notamment en termes de fiabilité des sources et d'épuisement informationnel ressenti par une partie de la population. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est tout ce qu'il y a derrière les chaînes de télé. Et tout de suite, sur Radio Calade, nous allons étudier le cas d'un homme étant derrière certains médias, Vincent Bolloré.
Les bonnes ondes de Claude B. Calade.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Calade. Vous écoutez notre revue de presse sur l'empire médiatique. L'expression empire médiatique en France fait référence à l'influence exercée par un petit nombre de groupes de médias sur le paysage médiatique français. Ces groupes contrôlent souvent plusieurs chaînes de télévision, stations de radio, journaux et magazines et sites web, ce qui leur confère un pouvoir significatif en termes de diffusion d'informations et d'opinions. Cela peut soulever des questions sur la diversité des points de vue et la liberté de la presse. Nous parlerons aujourd'hui du cas de Vincent Bolloré, qui joue un rôle majeur sur l'empire médiatique en France. Vincent Bolloré, comme vous le connaissez sûrement, est un homme d'affaires français, né en 1952, venant d'une famille bourgeoise catholique conservatrice. En plus de ça, sa fortune s'est essentiellement construite sur des secteurs anciens et en déclin. L'entreprise qu'il a héritée de son père, OCB, était spécialisée dans le papier à cigarettes. Après l'avoir vendu, il s'est consacré aux actifs de post-coloniaux, en particulier les infrastructures portuaires africaines et les plantations. Il devient une figure de la France-Afrique. Il possède plus de 200 000 hectares de plantations dans des pays tels que le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à récemment, Bolloré Africa Logistique possédait également des infrastructures portuaires dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Congo. En parallèle, il a également acquis des actifs dans le domaine des énergies fossiles.
Il est principalement connu pour être le créateur du groupe Bolloré, qui comporte la majorité des chaînes françaises, telles que Canal+, C8, CNews, C Star, Europe 1, Femme Actuelle, Paris Match, Journal du Dimanche et j'en passe. ces chaînes d'information critiquées pour être devenues des chaînes d'opinion. Les chaînes d'opinion qui désignent des chaînes dont le contenu exprime les orientations d'une famille de pensée ou d'un parti. En tant que personnage influent dans le monde des affaires et des médias, Vincent Bolloré a souvent été au centre de controverses et de débats. En particulier en ce qui concerne sa gestion des entreprises et son approche vis-à-vis des médias. Plus récemment, en 2021, en vue des élections présidentielles de 2022, il rencontre la totalité des représentants de droite et affirme soutenir Éric Zemmour et son parti d'extrême droite.
Le Monde le décrit comme étant le parrain d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Cela s'avère vrai, il a soutenu Éric Zemmour sur CNews ou chez Cyril Hanouna sur C8. Un dirigeant de Canal+, a d'ailleurs affirmé à RFI qu'Éric Zemmour comme Marine Le Pen ne sont pas d'extrême droite, ce qui prouve la corruption de cette chaîne. Nous pouvons aussi remarquer, sur un graphique réalisé par Claire Secaille, docteur en histoire contemporaine, qu'entre septembre et décembre 2021, sur Touche pas à mon poste, l'antenne était à 52,9% pour l'extrême droite, contre 47,9% pour les autres partis. 36% des invités politiques de CNews étaient d'ailleurs d'extrême droite entre juin 2020 et juin 2021, d'après le journal Libération. Mais Bolloré nie tout cela et affirme lors de son audition à l'Assemblée nationale le 13 mars 2024 « J'ai des convictions, mais les contenus du groupe Canal n'ont qu'un objectif, servir ses abonnés ou ses téléspectateurs. CNews a du succès car elle dit la vérité et que c'est un espace de liberté. » Il précise plus tard « CNews n'est pas une chaîne d'opinion, mais d'information. Le Conseil d'État, le juge administratif suprême et l'ARCOM qui régule la communication audiovisuelle le disent. » La cerise sur le gâteau, il est adepte de la censure depuis sa reprise de Canal+. Il a éteint à petit feu l'émission Les Guignols de l'Info, qui n'est plus diffusée officiellement depuis le 22 juin 2018. Pour rappel, Les Guignols de l'Info est une émission basée sur la satire politique. Mais depuis sa reprise, les auteurs historiques avaient été évincés pour faire place à une nouvelle équipe, tout cela accompagné de coupes budgétaires et le passage de l'émission en crypté, donc flouté pour les non-abonnés, à 20h50. Il n'a donc pas officiellement censuré celle-ci, même s'il a tout mis en œuvre pour qu'elle disparaisse toute seule. Mais celui-ci se défend en parlant d'abus de dérision des Guignols. Yves Lecoq, l'une des voix historiques de l'émission, affirme.
C'était un changement voulu par la direction pour que les Guignols ne fassent pas autant de mal à certains. Quand on prend pour cible d'autres personnages, on s'aperçoit qu'ils n'intéressent pas forcément tout le monde. Bolloré confronte donc la liberté d'expression et le pluralisme politique, avec les médias qu'il possède. Quant à la rhétorique paranoïaque et réactionnaire propagée quotidiennement par ces médias, du grand remplacement à la dictature verte, elle ne résulte pas seulement des lubies du milliardaire. Elle fait au contraire partie intégrante du modèle économique de Vincent Bolloré. La criminalisation des mouvements écologiques est très importante pour lui et nécessaire pour continuer ses activités dans le secteur pétrolier. Un empire médiatique peut être un danger pour la liberté de la presse. On le voit bien avec l'exemple Bolloré, tout juste traité.
Merci de nous avoir écoutés. Nous faisons place à la musique Pompe Afrique de Trio, qui sera suivie d'un interview de Reflet réalisé par Mohamed Ali et Kiara.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Ô prédateur tentaculaire,
ô boulimie monopoliste,
ô technocrate mercenaire,
quand la finance a ses artistes,
au terrain de jeu au soleil,
aux chaises longues pour politique,
Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf
se servent sur la pompe Afrique.
Bolo Poli, Bolo Réseau,
Bolloré voyage au Congo,
Bolloré crée son arsenal,
rejoint la cour du général,
Bolocratie, Bolo la pieuvre,
regarde les devises qui pleuvent.
Quand Bolo se roule à tarper,
il ouvre une usine OCB.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Mitterrand était mon papa. Je pars en colo en Angola. Je connais tous les moniteurs, richissimes, archi corrupteurs. Y a des armées, des œuvrés qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République.
France, Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs.
Vous voyez que la France a du cœur. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Les bonnes ondes de Claude B.
Voyage à travers les médias en Europe.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Calade pour la suite de l'émission Les bonnes ondes de Claude B. Le vendredi 8 mars, nous avons interviewé par téléphone Antoine Champagne, cofondateur du média indépendant Reflet.info. Lors de cette interview, il nous explique comment ce journal d'investigation et d'information hacking a vu le jour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons donc avec une présentation. Qui êtes-vous ?
Alors, bonjour, merci aussi pour cette interview. Je suis Antoine Champagne, je suis le rédacteur en chef de Reflet.info, qui est un journal en ligne indépendant qui a été créé en 2012.
D'accord. Quelle est votre histoire en lien avec ce média indépendant ?
Mon histoire, c'est que je l'ai co-créé avec un petit camarade qui est lui. Alors moi, je suis journaliste et mon ami Olivier Lorelli est lui plutôt dans le domaine de la sécurité informatique, ce que les gens appellent généralement un hacker. En fait, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la sécurité informatique.
Et pourquoi vous avez choisi d'être un média indépendant, de ne pas travailler dans un média traditionnel et de créer votre média finalement ?
La première raison, c'est que ça fait très longtemps que j'exerce ce métier, que j'ai commencé en 89, je crois, 1989. Et je suis passé par de nombreuses rédactions traditionnelles dans lesquelles je travaillais. Et ensuite... j'ai été longtemps journaliste indépendant, je suis toujours d'ailleurs, je travaille pour plusieurs rédactions. Mais à côté de ça, je trouvais, et c'est le constat que j'avais fait avec Olivier Lorelli, on était tous les deux un peu déçus de ce que l'on pouvait lire dans la presse traditionnelle sur les sujets qui nous intéressent. Et donc c'est comme ça, en discutant de ça, il y a eu un petit blanc, on s'est regardé, on s'est marré, et on a dit bah, « il n'y a qu'à en créer un journal ». Ou sous-entendu où on pourrait publier les choses que l'on ne trouve pas ailleurs hein, et qui nous intéressent nous. C'est comme ça qu'est né le journal et c'est assez satisfaisant quand on est journaliste hein, et que on est un peu adepte de l'investigation, de l'enquête. C'est assez satisfaisant d'avoir son propre média qui permet de choisir ses sujets et de creuser ceux qui vraiment nous tiennent à cœur sans qu'il y ait des pressions. Alors journal indépendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'a pas d'investisseurs particuliers ni de milliardaires qui détient le journal ou le groupe de presse et qui pourrait faire pression. On n'a pas de publicité, donc pas d'annonceur qui peut faire pression sur la rédaction. On ne collecte pas des données personnelles sur nos visiteurs comme le font à peu près tous les journaux pour les revendre après par des accords avec les GAFAM. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui puisse faire pression sur nous, donc on peut publier ce que l'on veut. Et ça, c'est une liberté quand on est journaliste qui est vraiment précieuse.
S'il n'y a pas de publicité au sein de votre média, comment celui-ci se finance-t-il ?
On se finance de deux manières. La première, c'est les abonnements. Et la deuxième... ce sont des dons, en fait. Les gens font des dons sur des collectes spécifiques. Par exemple, on a été attaqué en justice par Patrick Drahi, le propriétaire du groupe Altis. On a lancé une cagnotte pour nous aider sur les frais de justice et ça a très bien marché.
Je reviens un peu en arrière. Vous avez dit que vous aviez un goût prononcé pour l'investigation. Est-ce que c'est cette raison-là qui vous a poussé à entrer en contact avec un hacker et créer votre propre radio ?
Non, parce que en fait, ça remonte à beaucoup plus loin. Quand j'ai vu Internet arriver, j'ai voulu poser des questions à ceux qui avaient la maîtrise de ces nouvelles technologies que personne ne connaissait. Et donc j'ai toujours été un espèce de compagnon de route de ces gens-là. Parce que si vous vivez dans un monde numérique, il faut en comprendre les risques et les limites. Les hackers ou les experts en sécurité informatique ont des méthodes de travail qui sont proches de celles des journalistes d'investigation. On fait pas la même chose ni de la même manière. Exactement, mais ça se recoupe hein, et ça peut être très utile. Par exemple, nous on a mis en place toute une série, on appelle ça des outils numériques d'aide à l'investigation, qui sont des outils purement numériques mais qui nous permettent de mener des investigations que d'autres journaux ne peuvent pas mener, en fait. Voilà.
Et pour mener ces investigations, ce sont des employés, les hackers ou des bénévoles?
Alors pour la plupart, ils sont bénévoles. En fait, quand il y a des rémunérations, c'est plus sur des installations de ces outils dont je vous parlais tout à l'heure. Notamment, on a une énorme machine, un gros serveur, qui nous permet d'indexer des milliards de documents et de faire de la corrélation entre ces documents. Là, il y a de l'administration d'une machine, des installations de logiciels complexes, etc. Donc, même s'il y a une part bénévole, il y a aussi, c'est normal, une part de rémunération. Mais il n'y a pas de... On ne va pas, par exemple, qu'on se comprenne bien, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, on ne paye pas des hackers au sens pirate pour aller pirater par exemple, n'importe quoi, une entreprise pour obtenir des informations à partir d'une information confidentielle appartenant à l'entreprise. C'est pas ça qu'on fait. Hein. Nous, on récolte des données qui sont accessibles en source ouverte.
Et en quoi est-ce que l'investigation menée en commun avec des hackers se différencie des investigations qu'on pourrait retrouver dans d'autres médias?
Et en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que les gens ne prennent pas la mesure du volume d'informations, de traces qu'ils laissent sur ces réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui en savent plus sur vous que votre maman ou votre petite amie. C'est un peu ennuyeux. Mais pour les journalistes, c'est une piste qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire que si vous me donnez un nom ou une adresse mail, je peux en quelques minutes vous donner le numéro de téléphone portable de la personne, éventuellement son adresse, tous les comptes qu'elle a ouverts sur tous les réseaux sociaux et peut-être, pourquoi pas, les comptes qu'elle a ouverts sur des sites porno ou des sites commerciaux, parce que tout ça laisse des traces. Quand vous savez où aller chercher toutes ces informations, quand vous savez... quand vous pouvez faire, comme je le disais tout à l'heure, de la corrélation entre des dossiers d'instruction, des documents qui sont issus de leaks publiés sur Internet, quand vous pouvez faire de la corrélation avec de la donnée publique ouverte, parce que l'État publie aussi beaucoup de data en accès libre. Quand vous pouvez faire de la corrélation avec tout ça, vous voyez se dessiner des liens que d'autres ne voient pas. Là, on vient de publier un truc qu'on a donné gratuitement. C'est un outil qui permet de visualiser avec le site papers.fr une visualisation immédiate des liens capitalistiques entre des entreprises et des personnes. Ça, c'est quelque chose qui était très compliqué et très long à faire auparavant. Là, ça prend trois clics et trois minutes.
Justement, à l'aide de quel support est-ce que vous pouvez justement diffuser, partager vos investigations et vos outils ?
On diffuse nos articles sur notre site, donc reflet.info, reflet au pluriel. On est présent sur quelques réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, Instagram, très très peu et de manière complètement épisodique sur Facebook, parce que c'est pour nous le pire de ce qui se fait en matière de données personnelles.
Comment voyez-vous votre média à l'avenir en France ou même à l'international, peut-être ?
Alors, notre média, oui, pourquoi pas à l'international, quand on a des sujets un peu... qui peuvent vraiment intéresser des gens à l'international. Généralement, on les traduit. Par exemple, pendant les printemps arabes, on avait beaucoup traduit nos articles en arabe et en anglais. Là, on avait fait, au moment du début de la guerre à Kiev, on avait fait un papier. On s'était invité dans les caméras de vidéosurveillance en Ukraine. Donc on avait à peu près accès à 2500 caméras, dont une trentaine dans des voitures qui protégeaient la protection de la ville de Kiev, enfin de la capitale. Et du coup, on avait publié le papier aussi en anglais. Donc bon, international, pourquoi pas. On le fait. L'avenir du journal, en fait, ne dépend que de ses lecteurs. On ne peut pas fabriquer un journal de qualité. Je ne parle pas du nôtre, hein, mais en règle générale, on ne peut pas fabriquer un journal de qualité sans faire payer l'accès à l'information d'une manière ou d'une autre. Nous, on a choisi de ne pas monétiser nos lecteurs, c'est-à-dire de ne pas revendre leurs données personnelles. On a choisi de ne pas leur imposer de la publicité. Donc nous, on n'a qu'un seul moyen, ce sont les abonnements et les dons. Si on n'est pas suivi par notre lectorat, évidemment, on va mourir. Donc on disparaîtra. C'est une possibilité. On ne peut pas se voiler la face. Pour l'instant, ça tient toujours. Voilà. C'est ça l'avenir. Après, si on est suivi par nos lecteurs, à ce moment-là, l'avenir, il est pour nous surtout de continuer à produire une information de qualité et intéressante pour nos lecteurs. C'est pour ça qu'on est là, en fait, pour donner. En fait, les gens. Ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que la presse n'est pas une espèce de quatrième pouvoir vengeur, etc. Parce qu'il y a toujours des gens qui crient contre les journaux d'investigation, qui disent qu'on est des procureurs, qu'on essaie c'est pas ça. En fait, la presse n'est pas un quatrième pouvoir. La presse, c'est un outil de la démocratie. C'est un outil de la démocratie parce qu'il donne des clés de compréhension aux citoyens. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent exercer leur rôle démocratique, c'est-à-dire principalement au moment du vote, de manière éclairée. C'est-à-dire qu'on va leur donner toutes les clés de compréhension des événements qui se déroulent autour d'eux. Pourquoi ? Pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, mais parce qu'on est plongé dans l'information du matin au soir, que l'on est bien plus informé que la moyenne, que l'on passe notre temps à discuter avec les acteurs de la démocratie et que donc on est en capacité de faire des analyses, d'enquêter, de révéler des choses que certains ne voudraient pas voir être révélées. Voilà, donc on donne ces clés de compréhension aux citoyens. C'est pour ça que la presse est importante, parce qu'elle est un outil de la démocratie.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Et pas de rien.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était l'interview d'Antoine Champagne, cofondateur du média reflet.info, que vous pouvez retrouver sur le web. Notre rendez-vous touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Les bonnes ondes de Claude B ont pris du plaisir à réaliser cette émission, dans laquelle nous avons abordé le monde des médias à travers plusieurs thématiques. Des médias en Europe jusqu'à la sphère journalistique, pour finir par les empires médiatiques. Nous tenons à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également Radio Calade, notamment les interventions de M. Gervais, directeur et cofondateur de Radio Calade, Sylvie Rosier, la journaliste, et Mathieu Roert, le technicien, mais aussi Madame Réti, la chef de notre établissement, Madame Genot, la proviseure adjointe, et Madame Goallo, agente comptable. Sans oublier Madame Sieste, la documentaliste, et notre professeur, Monsieur Chaugnard. Retrouvez-nous sur le www.radio-calade.fr. Au revoir.
Les bonnes ondes de Claude B.
Voyage à travers les médias en Europe.
Une émission présentée par la première AGGSP de Claude B en direct sur Calade.
Calade, ma radio.